André Ruiz pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre incursion dans l'univers de Molière avec notre troisième émission sur la vie et l'œuvre du grand homme, avec la suite de l'interview de Molière revenue pour nous de l'au-delà en la personne de Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour André.
Et des extraits de ces pièces dites par nos comédiens et comédiennes. Françoise Bénard, bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Muriel Murard, bonjour Muriel.
Bonjour à tous.
Michel Lagouin, bonjour Michel.
Bonjour tout le monde.
Et Pierre Rougeau, bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors reprenons l'interview de Molière là où nous l'avons laissé la dernière fois. Mon cher Jean-Baptiste, après la faillite de l'illustre théâtre, vous avez quitté Paris avec votre troupe.
Oui, à l'automne 1645, la troupe quitte Paris. Vous imaginez l'aventure, hein. Allant de ville en ville, noir de sur le dos, tirant de gros chariots de bois, se racontant des histoires au coin du feu, montant des tréteaux de fortune dans des petits villages, des saltimbanques en haillons, des acteurs tirant leurs charrettes, des tréteaux de fortune qui s'envolent. Non. Nous jouions dans des maisons consulaires, des palais, dans des grandes salles des villes de province, dans des endroits prestigieux. Nous étions bien vêtus, il était nécessaire de suivre les modes, jouissant de solides soutiens de famille, d'appuis nombreux parmi les élites régionales, d'un réseau dense de diffusion dans les châteaux, demeures et métropoles comme Lyon. Nous y séjournions avec une telle régularité que nous passions pour la troupe officielle de la ville. J'ai occupé rapidement les premiers rôles du répertoire, y compris tragique. J'acquis progressivement un ascendant sur cette troupe et j'en devins le chef naturel. Notre voyage est très long. De la Bretagne, de la Guyenne, au Dauphiné et à la Bourgogne. Une préférence pour le Languedoc et la vallée du Rhône. Je dois vous préciser que le royaume à cette époque est affaibli par la guerre contre l'Espagne et déchiré par la Fronde.
Et cette période troublée a eu des incidences sur le théâtre.
De 1648 à 1653, les princes de sang, Condé, Conti, le duc de Longueville, donc ces princes de sang s'opposent aux royaux, conduits par le cardinal de Mazarin et la régente, la reine-mère en Autriche, qui assurait l'intérim en attendant la majorité du futur roi Louis XIV. Oui, le Louis XIII était mort en 1643, quatre mois, je vous le rappelle, avant notre installation au jeu de paume de la paroisse de Saint-Germain-des-Prés. Bon, les troubles ont eu des répercussions directes sur la possibilité ou non de jouer en pleine guerre civile. Notre troupe, donc celle de M. Dufresne, est successivement au service de nobles aux responsabilités politiques importantes, et le destin de chacun de ses protecteurs est intimement lié aux événements de la Fronde comme au retournement d'alliance. Avec l'illustre théâtre, nous avions décroché la timbale. Être la troupe du duc d'Orléans, c'était commencer presque au sommet. Mais un protecteur, malgré la gratification qu'il promet, n'assure pas les affaires. Une troupe reste une entreprise et la faillite a fait disparaître le bénéfice du nom prestigieux d'Orléans. Troupe du duc d'Éperon, c'est un bon cran en dessous. Hein. En rejoignant cette troupe, mes compagnons et moi étions actionnaires pour un tiers départ. Après le décès de Madame Dufresne, le départ de sa fille et de son mari, nos deux groupes ont été alors à part égale. Le noyau de la troupe de M. Dufresne se dissout. Et en 1648, je deviens comédien de la troupe de Dufresne, mais c'est encore lui qui négocie. Hein. En 1650, on pouvait lire nos deux noms sur les contrats, mais c'est moi qui encaissais l'échec. Dufresne, d'ailleurs, se retira de la troupe en 1658, lors de notre retour à Paris. Et cette période en province représentait beaucoup de déplacements. Une préférence pour le sud, car notre ancien protecteur, Gaston d'Orléans, était gouverneur du Languedoc. Nos soutiens étaient là-bas. Et puis, entre les années 1648 et 1652, on était bien dans cette région, à l'écart des troupes de Paris. Quand les affrontements se sont déplacés à Bordeaux et que la cour avait déménagé à Poitiers, on remonta à Lyon. Les troubles ont eu des répercussions sur la possibilité de jouer ou non, oui. Représentation annulée en raison de la misère du temps et de la cherté des blés. Une anecdote nous avait écopé d'une amende à Toulouse pour avoir joué une comédie. Je crois que je me souviens, c'était l'année 1649.
Et la troupe, donc, a eu plusieurs protecteurs qui se sont succédés.
Notre troupe était successivement au service de nobles aux responsabilités politiques importantes. Le destin de ces protecteurs était lié aux événements de la Fronde comme au retournement d'alliance. Nous passions de protecteur en protecteur. Quand nous étions sous la protection du gouverneur de Guyenne, cela se passait bien, jusqu'aux troubles dans le sud-ouest et aux scandales domestiques et financiers du duc de Perron, qui le verront réassigné par le roi en Bourgogne. Ce nom étant terni, nous ne mentionnerons plus son nom d'ailleurs. Heureusement, d'autres soutiens interviendront, officieux, mais précieux. Les lieutenants généraux du roi en Languedoc, placés sous les ordres de Gaston d'Orléans, ont resté d'ailleurs en pays de connaissance. De nombreux comtes nous invitaient à nous produire lors des réunions des États de Languedoc, dont et surtout le comte d'Aubijoux. Grâce à lui, nous rencontrons le prince de Conti, venu en Languedoc négocier son rapprochement avec le pouvoir après sa rébellion durant la Fronde. Nous éblouissions le prince lors de nos représentations. Il décida de faire de notre compagnie sa troupe, un prince de sang. On faisait difficilement mieux d'ailleurs en termes d'image.
Faisons une petite pause pour entendre le début des Précieuses Ridicules. C'est en 1659 que la pièce de Molière, Les Précieuses Ridicules, a été jouée pour la première fois. Cette comédie, en un acte écrite en prose, nous conte l'histoire de deux jeunes filles de province, Magdelon et Catos, en voyage vers Paris à la recherche de l'amour et du divertissement. La première priorité de Gorgibus est de trouver des maris convenables pour sa fille et sa nièce. Cependant, son objectif principal va être mis à mal, et la pièce critique les dérives de la préciosité, qui est un mouvement social, intellectuel et artistique qui se rencontre à cette époque dans de nombreux salons parisiens. Les femmes avancent leurs aspirations à la romance, des sentiments qui dépassent les contraintes d'argent. Mais au fur et à mesure du développement de ces cercles, les membres commencent à donner plus de valeur à la forme qu'à l'essence. Les deux jeunes provinciales, Magdelon et Catos, se laissent naïvement berner par les belles paroles des imposteurs, témoignant d'un manque total de réflexion. Voici l'acte 1, scène 1, donc le début de la pièce, avec Lagrange et Ducroisy, qui, furieux de la façon dont Magdelon et Catos les ont traités depuis qu'ils les ont accueillis chez eux, Lagrange et Ducroisy descendent dans les rues pour manifester leur mécontentement. Voici Lagrange avec Pierre et Ducroisy, Michel.
Seigneur Lagrange.
Quoi ?
Regardez-moi un peu sans rire.
Eh bien ?
Que dites-vous de notre visite ? En êtes-vous fort satisfait ?
À votre avis, avons-nous sujet de l'être tous deux ?
Pas tout à fait, à dire vrai.
Pour moi, je vous avoue que j'en suis scandalisé. A-t-on jamais vu, dites-moi, deux pecs provinciales faire plus les enrichis que celles-là ? Et deux hommes traités avec plus de mépris que nous ? À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bâiller, tant se frotter les yeux et demander tant de fois « Quelle heure est-il ? » Ont-elles répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire ? Et ne m'avouerez pas enfin que quand nous aurions été les premières personnes du monde, on ne pouvait nous faire pis qu'elles ont fait.
Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur.
Sans doute, je l'y prends, et de telle façon que je peux me venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement infecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuse et de coquette que leur personne. Je vois ce qu'il faut être pour être bien reçu. Et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tous deux une pièce qui leur fera voir leur sottise et pourra leur apprendre à connaître un peu mieux leur monde.
Et comment encore ?
J'ai un certain valet nommé Mascarille qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit, car il n'y a rien de meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de vers et dédaigne les autres valets, jusqu'à les appeler brutaux.
Eh bien, qu'en prétendez-vous faire ?
Ce que j'en prétends faire...
Altitude FM.
Jean-Baptiste, quel était l'intérêt de vos protecteurs à soutenir la troupe ?
Ben, pour ces protecteurs, c'était une image de statut et de publicité. Leur nom était répandu à travers les régions grâce à nous. Alors, des centaines de personnes entendaient leur nom et l'associaient au plaisir de voir un spectacle de qualité. En outre, disposer d'une troupe supposait avoir les moyens. Le mécénat culturel était autant un instrument d'affirmation de leur pouvoir qu'un impératif social, le devoir d'une condition. Le soutien aux arts s'affichait chez les grands. Grâce à eux, nous nous affichions comme une troupe d'honnêtes artistes et non comme une bande de saltimbanques. Cette réussite, nous la devions aussi à Madeleine, étoile du théâtre, ex-compagne du duc de Modène. Il était aisé pour elle de connaître les anciens compagnons de service et de bataille. Elle avait une position privilégiée. Elle est parvenue à trouver des parrains et marraines pour sa fille qu'elle avait eue avec le duc de Modène et qui n'avait pas reçu le premier sacrement. Le baptême d'Armande a eu lieu à Montpellier en 1653. Conti, libertin au sens à la fois philosophique du terme et au sens de débauché, était amateur de belles lettres comme de théâtre. Brillant d'esprit, j'adorais parler théâtre avec lui. Malheureusement, il attrapa la vérole lors d'une partie fine en compagnie d'Aubijou qui en mourra. Terrifié, il sombra dans une crise mystique et il passa sous la coupe d'un évêque rigoriste, lequel lui fera reverser ses bénéfices à des œuvres de charité, embrigadera sa femme et, conformément à la haine du théâtre façon Saint-Augustin, lui fera détester tout ce qu'il avait aimé, dont sa propre troupe. Nous continuons à porter toutefois son nom.
Et alors, vous êtes revenu sur Paris.
Ces années de province ont été pour moi l'occasion de jouer mes premières pièces. L'étourdi et le dépit amoureux qui feront le délice de Paris. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ces deux comédies me distinguaient déjà des dramaturges concurrents. En 1657, ma troupe est à Rouen. On s'ennuyait. Madeleine voulait retourner à Paris. Une opportunité s'est présentée. Le théâtre du Marais a des difficultés. Ce théâtre se libère. On tente le coup. Bon, le risque financier est élevé. Mais le jeu en vaut la chandelle. D'autant plus que Philippe, le frère du roi, a besoin d'une troupe assortie à son nouveau château de Saint-Cloud. Notre troupe, Dufresne, Béjart, Molière, avait de quoi passer l'entretien d'embauche. Imaginez, même devant le jury le plus mal disposé, troupe du duc d'Éperon, troupe des États du Languedoc, troupe du prince de Conti. L'honneur de servir le frère du roi, le cadeau de bienvenue incluait une salle gratuite. Ben à nos paris.
Et donc, vous redevenez la troupe de monsieur.
Ça y est, la troupe était de retour. L'illustre théâtre avait échoué à Paris en tant que troupe de monsieur, Gaston d'Orléandre, frère de Louis XIII. La troupe Madeleine Molière Dufresne revenait à nouveau comme troupe de monsieur Philippe d'Orléans, petit frère de Louis XIV, au moment où ce dernier prenait personnellement reine du pays. Et monsieur, l'aristocrate le plus riche du royaume, marginalisé politiquement, il tente son frère pour qu'il finisse pour nous inviter à jouer devant lui, dans son château de Vincennes, puis au Louvre, l'une de ses résidences. Nous jouâmes dès l'automne devant le roi, Nicodème de Pierre Corneille. On n'a pas été très bons, je dois dire. La tragédie n'était pas notre spécialité. Rapidement, je proposais au roi une pièce, un acte de mon cru. Le 24 octobre 1658, au palais du Louvre, en présence de Louis XIV, nous jouâmes un docteur amoureux. Une bouffonnerie dérivée d'un scénario des comédiens italiens. La cour était conquise, le roi est surpris, ravi et en redemande. J'ai retenu cette leçon, éviter la tragédie et se contenter de faire rire le roi. Je jouerai la carte du parfait courtisan. Nous étions appâtés par le gain, oui. Monsieur nous promettait 300 livres par an pour chacun de nous. Somme qui ne nous versera d'ailleurs jamais. Enfin, l'important, c'était qu'il nous présente comme sa troupe. Cette promotion nous a donné des ailes. Nous avions même proposé à Corneille de créer sa nouvelle pièce, Oedipe. Cela sera pour l'hôtel de Bourgogne.
Merci Jean-Baptiste. Voici maintenant un deuxième extrait des Précieuses Ridicules, l'acte 1, scène 9, où Magdelon et Catos entrent en scène et entament une discussion des plus charmantes avec Mascarille. En effet, ce dernier les charme avec ses talents d'orateur. Il s'exprime par l'intermédiaire de mauvais vers qu'affectionnent les Précieuses. Ces dernières se laisse lentement mais sûrement séduire. Voici Magdelon, Françoise, Catos, Muriel, Mascari, Michel et Almanzor, Pierre.
Mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui.
Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser.
Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'y ayez amené.
Ah, je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pic, repique et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris.
Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de nos louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie.
Ma chère, il faudrait faire donner des sièges.
Hola, Almanzor.
Madame.
Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation.
Mais au moins, y a-t-il sûreté ici pour moi?
Que craignez-vous?
Quelque vol de mon cœur, quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable, d'abord qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde meurtrière. Ah, par ma foi, je m'en défie. Et je m'en vais gagner au pied, où je veux caution bourgeoise qu'ils ne me feront point de mal.
Ma chère, c'est le caractère enjoué.
Je vois bien que c'est un Amilcar.
Ne craignez rien. Nos yeux n'ont point de mauvais dessein et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homie.
Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez-vous un peu l'envie qu'il a de vous embrasser.
Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris?
Oh, hélas! Qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le plus grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie.
Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens.
C'est une vérité incontestable.
Il est fait un peu crotter, mais nous avons la chaise.
Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps.
Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est des vôtres.
Hélas, nous ne sommes pas encore connus. Mais nous sommes en passe de l'être et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies.
Et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses.
C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite. Et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits.
Oh, mon Dieu! Nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié. Car enfin, il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là, si l'on veut être d'un beau monde. Ce sont ceux qui donnent le branle à la réputation de Grand Paris. Et vous savez qu'il y en a tels dont il ne faut pas que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaissance, quand il n'y aurait rien autre chose que cela. Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruit de 100 choses qu'il faut savoir de nécessité et qui sont de l'essence d'un bel esprit. On apprend par là, chaque jour, les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. On sait à point nommé, un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. Une telle a fait les paroles sur un ternaire. Celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance. Celui-là a composé des stances sur une infidélité. Monsieur un tel écrivit hier soir un sisquin à mademoiselle une telle, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur les 8 heures. Un tel auteur a fait un tel dessin. Celui-là, on est à la 3e partie de son roman. Cet autre met ses ouvrages sous la presse. C'est là qui vous fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir.
En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vint à me demander si j'avais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu.
Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez nous une académie de beaux esprits. Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en excrime un peu quand je veux. Et vous verrez courir de ma façon, dans les belles ruelles de Paris, 200 chansons, autant de sonnets, 400 épigrammes et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits.
Oh, je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela.
Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont pas.
Pour moi, j'aime terriblement les énigmes.
Oh, cela exerce l'esprit. Et j'en ai fait 4 encore ce matin, que je vous donnerai à deviner.
Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés.
C'est mon talent particulier. Et je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine.
Oh, certes, cela sera du dernier beau. J'en retiens un exemplaire au moins si vous le faites imprimer.
Je vous en promets à chacune un. Un et des mieux reliés. Cela est au-dessous de ma condition. Mais je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent.
Je m'imagine que le plaisir est grand de vous savoir imprimer.
Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amies que je fus visiter. Car je suis diablement fort sur les impromptus.
L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit.
Écoutez donc.
Oh, nous y sommes de toutes nos oreilles.
Oh oh! Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde, votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur!
Ah, mon Dieu! Voilà qui est poussé dans le dernier galant.
Tout ce que je fais a l'air cavalier. Cela ne sent point le pédant.
Il en est éloigné de plus de 2000 lieues.
Avez-vous remarqué ce commencement? Oh, oh! Voilà qui est extraordinaire! Oh, oh! Comme un homme qui s'avise tout à coup. Oh, oh! La surprise! Oh, oh!
Oh, oui! Je trouve ce « oh, oh » admirable.
Il semble que cela ne soit rien.
Ah, mon Dieu! Que dites-vous? Ce sont là de ces choses qui ne se peuvent payer.
Sans doute. Et j'aimerais mieux avoir fait ce « oh, oh » qu'un poème épique.
Tu Dieu! Vous avez le goût bon.
Et je ne l'ai pas tout à fait mauvais.
Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde, c'est-à-dire... Je m'amuse à vous considérer, je vous observe, je vous contemple. Votre œil en tapinois, que vous semble ce mot tapinois? N'est-il pas bien choisi?
Tout à fait bien.
Tapinois en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris. Tapinois.
Il ne se peut rien de mieux.
Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur!
Oh, il faut avouer que cela a un tour spirituel également.
Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus.
Vous avez appris la musique?
Moi? Point du tout.
Et comment donc cela se peut-il?
Les gens de qualité savent tout. Sans avoir jamais rien appris.
Assurément, ma chère.
Écoutez, si vous trouvez l'air à votre goût... La 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 brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais il n'importe, c'est à la cavalière. Oh, 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 oh. Je n'y prenais pas.
Ah, que voilà un air qui est passionné. Est-ce qu'on n'en meurt point?
Et il y a de la chromatique là-dedans.
Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant? Au voleur! Et puis, comme si l'on criait bien fort, oh, 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 au voleur! Et tout d'un coup, comme une personne essoufflée, au voleur!
C'est là savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Tout est merveilleux, je vous assure. Je suis enthousiasmée de l'air et des paroles.
Je n'ai encore rien vu de cette force-là.
Tout ce que je fais me vient naturellement, c'est sans étude.
La nature vous a traité en vraie mère passionnée, et vous êtes l'enfant gâté.
À quoi donc passez-vous le temps ?
Oh, rien du tout.
Nous avons été jusqu'ici d'un chêne effroyable de divertissement.
Je m'offre à vous mener l'un de ces jours à la comédie, si vous voulez. Aussi bien on en doit jouer une nouvelle que je serai bien aise que nous voyons ensemble.
Ce n'est pas de refus.
Mais je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là. Car je me suis engagé à faire valoir la pièce, et l'auteur m'en est revenu prier encore ce matin.
Les précieuses ridicules mettent en scène plusieurs caractères appartenant à l'univers de la farce et de la commedia dell'arte, au premier rang desquels Jodelet, qui incarnait depuis des décennies le type du valet poltron, associé à Molière, Mascarille, dont le costume ridiculement chargé était une réminiscence directe du théâtre de la foire, et de Gorgibus, l'espie, figure traditionnelle du vieillard ridicule, il recrée le trio des farceurs, célèbres 30 ans plus tôt, incarnant moins des personnages que des équivalents des masques de la comédie italienne. Impression, renforcée à la fois par le fait que Jodelet jouait le visage fariné, d'où la réplique de Mascarille, il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle, comme vous le voyez, et par la signification du nom de Mascarille, dont l'étymologie renvoie à l'idée de masque. Merci Philippe, merci Françoise, merci Muriel, merci Michel, merci Pierre. Rendez-vous dans nos prochaines émissions. Notre émission est maintenant terminée, la citation du jour. Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et qui dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez sotte à vous énoncer moins vulgairement. Dites... Voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. C'est un extrait des Précieuses Ridicules par Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com. Toutes les informations et bien d'autres sur le site de Lyon Régional, fnct-midi.fr. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mise en scène, éclairé, sonorisé par les passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous, à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.